session de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimaud, le 26 mai 1995, sixième conférence.
N'hésitez jamais dans les petits colloques des questions de dire ce qui vous a pu vous choquer, vous arrêter. Alors, je précise un point au moins qu'on m'a dit, il y en a peut-être beaucoup d'autres, faites-le. Vous voyez, quand je dis que tout athéisme implique un a priori affectif, et c'est cet a priori affectif qui bloque l'intelligence, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Il y a des athées très intelligents, c'est bien évident. Mais le point de vue, l'a priori affectif bloque. Ça, on le sait bien. Mais je me souviens, c'est une petite remarque, Monod avait un séminaire, Monod, professeur de point de vue sciences biologiques, avait un séminaire où il préparait surtout ceux qui étaient très capables et qu'il espérait un jour ou l'autre être prix Nobel. C'était connu. C'est un qui m'a raconté ça. Il m'a dit à moi personnellement, je n'ai jamais très bien compris comment il m'avait choisi, mais j'étais très heureux et très honoré de faire partie. Je le connaissais très bien et je voyais combien il était intelligent dans sa matière. Quand il a voulu faire de la philosophie, un livre qu'il a écrit, Le hasard et la nécessité, bon, je l'ai lu très attentivement, c'est intéressant, c'est d'ordre philosophique. C'est pas d'ordre scientifique. Alors, on voit des blocages. Alors, c'est forcé, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialiste en philosophie, je comprends très bien. Et un de cet étudiant-là, qu'il connaissait très bien, qu'il l'aimait beaucoup, m'a dit quand j'ai écouté le discours de Monod quand il a été reçu au Collège de France, et qu'il s'est mis à parler de l'aspect religieux, je me suis dit, comme c'est dommage qu'un homme si intelligent dise des choses, il a même dit si bêtes, je mets entre guillemets, sur ce qu'est la religion. Et on voit très bien comment c'est, et on en est tous là. Pour moi, c'est pour ça que je dis très souvent que la philosophie doit supprimer nos a priori affectifs. Les limiter le plus possible. Il y en aura toujours un peu, il ne faut pas être dupe. Pour avoir une intelligence libre de recherche, le philosophe doit être un homme de recherche constant. Parce qu'on ne possède pas la vérité, mais on est possédé par la vérité, ce qui est très différent. Posséder la vérité, c'est la mesurer. Être possédé par la vérité, c'est justement la contempler. C'est de comprendre que plus on avance, plus notre intelligence a besoin d'aller loin dans sa recherche philosophique. Ça, je crois, très important. Vous voyez donc, ne dites pas que, surtout pas, que puisqu'il est athée, il manque d'intelligence. Non. Presque tous les athéismes impliquent un a priori affectif qui bloque l'intelligence. Oui, d'où cette parole du psaume. Il y a toujours un petit fondement. Incipiens dixit in cordes vos. Est-ce que je vous ai dit, ne dites jamais ça à quelqu'un qui vous dit qu'il est athée. Au contraire, écoutez, essayez de comprendre où se situe le blocage. Oui, chez Rostand, ce que je connaissais de ses amis très bien, c'était entre ce côté affectif à l'égard de la souffrance des animaux, et je comprends. Que les gros requins mangent les petits poissons. Qu'il y a une bataille au fond des mers. Et qu'on voit ça partout, le lion ou la lionne. Des petits animaux délicieux. Et qu'on aime beaucoup. Alors, vous voyez, et je comprends qu'il y a là proposé. C'était le cours de philosophie qu'on appelait philosophie populaire. C'est-à-dire que c'était un cours libre le soir, où tout le monde pouvait venir. C'était passionnant. Parce que j'aime de faire de la philosophie avec des gens qui sont engagés dans la vie, plus qu'encore qu'avec des étudiants. Parce qu'ils ont une expérience. Alors il est arrivé quelqu'un qui, je ne sais pas le nom technique, vous savez, qui est absolument dans les chantiers. Eh bien, c'est condamné par l'Église. Alors, je dis, ça dépend comment vous l'entendez. Elle a cité des textes, évidemment, d'écriture qu'il connaissait par cœur. Alors, je dis, mais écoutez, j'ai dit, il y a trois sagesses. La sagesse mystique, vous savez ce que c'est. Mais il faut toujours faire ça quand on vous interroge, de renverser l'interrogation, n'est-ce pas ? Vous savez ce que c'est que la sagesse mystique ? Eh bien, c'est la sagesse mystique qui nous conduit. C'est ceux qui sont mus par l'Esprit Saint, qui sont fils de Dieu. C'est pas ceux qui font de la philosophie. Mais non. Une philosophie, si elle recherche la vérité, elle est bonne. Parce que toute vérité est bonne. Et la foi ne s'oppose pas à la vérité. Parce qu'on vole à 500 mètres, qu'on est un imbécile, si un autre vole à 1000 mètres. Mais non. On ne va pas demander à tel ou tel moteur de faire plus qu'il ne peut faire. Notre intelligence a été créée par Dieu. Alors, si je vous dis, est-ce que votre intelligence est créée par Dieu ? Elle dit oui. Donc, elle est bonne. Oui. Qu'est-ce qu'elle se nourrit de quoi ? Votre intelligence, elle se nourrit de quoi ? Là, il n'a pas su me dire. Mais elle se nourrit de la vérité. Et la philosophie, c'est chercher la vérité sur l'homme. Je ne m'arrête pas à la philosophie. Mais c'est une session philosophique. Si on avait une session mystique, j'aurais commencé tout de suite par le point de vue mystique. Session philosophique, on essaie de voir le rôle de la philosophie à l'égard des traditions religieuses, à l'égard de la foi. Et comment il y a eu un déraillement. Et que ce déraillement aboutit à Sartre. Prima de la négation. C'est simplement ça que j'ai voulu vous faire comprendre. Pour voir que de fait, les faits sont là et nous les montrent. Et que les pères de l'Église, ils ont eu une audace énorme. Se sont servis de toute la philosophie grecque. Et les premiers théologiens aussi. Et Thomas d'Aquin n'a pas assez cité. Ça a été évidemment une très grande audace qui lui a coûté cher. Puisqu'elle était condamnée par la Sorbonne. Condamnée, pas lui directement, mais certaines de ses propositions qui étaient nettement aristotéliciennes. Mais la Sorbonne de Paris était plus sévère que Rome. Ça peut arriver quand on usurpe la place de l'autre. Et c'est souvent ce qui arrive quand on usurpe la place. Oui, si on servait de la philosophie pour aller contre la foi, tout à fait d'accord. Si on servait de la philosophie pour dire qu'il n'y a qu'une seule conduite qui est importante, c'est la prudence acquise, et que le Saint-Esprit ne nous conduit pas, je serais tout à fait d'accord. Donc, ce que Saint Paul veut dire là, c'est justement ça. Dans tout le contexte qu'on connaît bien, la philosophie stoïcienne avait une très grande importance. Et donc, il fallait cette purification de la philosophie stoïcienne. Que dirait Saint Paul en face de la philosophie hegélienne, en face de toutes les idéologies athées ? Je comprends qu'il dirait. Si j'identifie ces idéologies athées avec la philosophie, oh, attention, ça vous conduira dans des fausses pistes. Mais dira aussi avec le Concile Vatican II. Soyez capable de parler avec tous les hommes. L'ouverture au monde que le catholique, s'il est vraiment catholique, doit aimer tous les hommes. Et donc on doit aimer même ceux qui ont des opinions totalement différentes de les nôtres. Et on doit essayer de les éclairer. Parce que je crois que l'idéologie athée peut faire beaucoup de mal. Et peut faire que certains qui étaient croyants perdent la foi. Alors il s'agit de montrer l'erreur. Et là, c'est le rôle du philosophe. Oui. Et je crois que ça, c'est pas du tout contraire à les révélations. Regardez les livres sapientiaux. Alors, continuez de poser vos questions, hein, pour ne pas les garder dans votre cœur. En face de cet ontologisme de droite et de gauche, et je dirais volontiers que l'ontologisme de droite est le lit de l'ontologie de gauche. Et l'ontologie de gauche, ce sont ces diverses idéologies athées. Nous sommes obligés de voir l'erreur commune qu'il y a entre cette ontologie de droite et cette ontologie de gauche. Il y a quelque chose de commun. Et qu'est-ce que c'est que le commun? Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de commun? C'est ce que Descartes dit ouvertement. Je tourne le dos à Aristote, puisque la première interrogation, c'est à partir de mes idées, la signification. Comme si l'idée était le point de départ de la philosophie, et non pas l'expérience des réalités. On ne fait pas la philosophie du possible, on fait la philosophie de ce qui est. Et je précise, on fait la philosophie de l'homme. Avec tout ce développement énorme des sciences, le philosophe sait très bien qu'il a des armes légères comparativement à toutes ces sciences actuelles. Puisque grâce à des instruments, on peut détecter des tas de choses que notre pauvre œil naturellement ne voit pas. C'est sûr. Donc il y a une quantité de connaissances nouvelles qui sont tout autres que les connaissances philosophiques. Il faut toujours se rappeler ça. Confondre la philosophie et la science, c'est du positivisme. Et c'est dangereux. Parce que c'est oublier qu'il y a une recherche de l'intelligence à l'égard de ce qu'est l'esprit, de ce qu'est l'âme spirituelle, et en définitive se poser la question: existe-t-il un être premier? Question que la science ne se pose pas. La science regarde le comment des réalités, tout ce qui est mesurable, tandis que la philosophie part du jugement d'existence, et la philosophie est toujours liée à ce jugement d'existence. Donc à la réalité existante. Et la philosophie conduit progressivement à découvrir la réalité la plus parfaite parmi toutes les réalités que je peux expérimenter. Je suis la personne humaine. C'est pour ça que je dis en terminant que toute la philosophie, c'est entre ceci et je suis. Et c'est le passage entre les deux. Et ça, c'est très intéressant de voir ça. De voir qu'on commence par le jugement d'existence. Et dans ce jugement d'existence, on découvre quelque chose de tout à fait particulier. Je suis. Le je suis a quelque chose d'unique. Puisque quand je dis je suis, je sais que je suis seul à pouvoir le dire. Mon voisin, même si je l'aime beaucoup, grande originalité. Et elle est extraordinaire, parce que par là, j'ai une connaissance de la réalité intérieure, pas seulement d'extérieur. Et au fond, tout commence par affirmer l'existence de réalité extérieure à moi, ceci est. N'importe quelle réalité, cette table existe. Les petits cailloux, en sortant d'ici, existent. Et la pluie existe. Tout ça existe. Et c'est des réalités que je constate, en dehors de moi. Et tout repose sur le chemin d'existence, ceci est. Et voyez, quand je regarde chez Occam, le jugement d'existence, qu'est-ce qu'il est devenu chez Occam? Il est devenu datur en latin, ceci est donné. On ne dit plus ceci est, mais ceci est donné, le fait. On constate le fait. Il n'y a plus le jugement d'existence. Et c'est exactement ce qu'on retrouve chez Kant. Je dis, Occam est vraiment celui qui a commandé toute la grande déviation de l'ontologisme. Et l'ontologisme a conduit à l'athéisme. Et ça, je crois que c'est très important de le saisir. Parce que je ne veux pas combattre l'idéologie athée. C'est pas la peine. Mais je veux redécouvrir une vraie philosophie. Une philosophie saine, réaliste, dans laquelle je peux découvrir la vérité et aller jusqu'au bout. Et je dis, c'est la philosophie de l'expérience. Alors, je crois que c'est cela qu'on doit essayer de comprendre ensemble, rapidement, parce que on ne va pas en deux jours faire toute la philosophie, mais on peut au moins saisir des chemins, des allées, comme dit poétiquement Heidegger, n'est-ce pas ? Il joue sur Licht et Lichtung, les allées dans la forêt qui nous conduisent au rond-point, qui nous conduisent à la réalité. Et c'est vrai, quand je réfléchis sur mes expériences, mes expériences, et quelquefois je peux ajouter l'expérience de mes amis, parce que j'ai pas été dans la lune, c'est bien dommage, ça n'aurait rien changé à ma métaphysique, rien du tout, ça je le sais, parce que la lune, oui, elle existe, c'est sûr, c'est très intéressant de voir la Terre de la lune, mais je ne sais pas si ça change beaucoup le cœur de l'homme et l'intelligence de l'homme. C'est une extension, c'est intéressant, c'est très intéressant. Première photo de la Terre, de la Lune, c'est très beau. Mais ça ne modifie pas grand-chose. Hein. Mon expérience avec celle d'Aristote, si je ne me sers pas de microscope électronique, si je ne me sers pas d'instrument, mon expérience n'a pas beaucoup changé. Le chaud et le froid. Et bien, si j'ai une peau plus fine qu'Aristote, j'aurai plus facilement les souffrances de chaleur et plus vite que lui. Le sec et l'humide, ça n'a pas changé beaucoup. Alors, toute sa philosophie repose sur l'expérience. Et c'est pour ça qu'il reproche à Platon d'avoir manqué d'expérience. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir à chaque moment revenir à l'expérience humaine. Alors quand je dis expérience, faisons attention. Il faut tout de suite préciser. Il y a deux types d'expériences très différentes dans la multiplicité de nos expériences. passion de philosophie. Bon, ça c'est l'expérience interne. Puis il y a l'expérience externe. L'expérience externe se sert de nos sens. C'est mon intelligence présente dans nos sens. Mon intelligence est au bout de mon petit doigt quand je touche la table. Et c'est une expérience. Quand je touche l'eau, quand je respire. Alors, c'est très curieux. C'est que le néoplatonisme qui s'origine à Platon part de l'expérience interne. L'aristotélisme, Aristote, part de l'expérience externe. C'est très bien que si j'ai une expérience interne, j'aime quelqu'un. Normalement, quand j'aime quelqu'un. J'aime une personne, normalement, que j'ai vue. Et donc, toute expérience interne dépend d'une expérience externe. Toute. Tandis que si je pars de l'expérience interne, les expériences externes sont laissées de côté. Et je tombe dans un primat de la subjectivité et dans un primat de la négation. Donc quand on dit au plan philosophique que la philosophie qu'on a optée, on a pris la philosophie de l'expérience externe et interne. Pourquoi ? Parce qu'on veut que la philosophie soit la connaissance la plus exhaustive et la connaissance de l'homme dans toutes ses dimensions. Si je fais de la philosophie, c'est pour connaître ce qu'est la personne humaine. Et en connaissant la personne humaine, je me pose la question, existe-t-il une réalité plus grande que l'homme ? Bon, c'est les deux grandes questions. C'est vrai que la première question, c'est celle-là. Je désire connaître l'homme. L'homme dans toutes ses dimensions. Et je désire préciser ce qu'est la personne humaine. Vous voyez, le je suis. Et ensuite, existe-t-il une réalité plus grande ? Là, je suis à partir de l'expérience. Et toute ma philosophie repose sur l'expérience. Évidemment, je ne demeure pas toujours dans l'expérience. Je vais chercher à analyser cette expérience. Je vais essayer de la connaître, la réalité que j'atteins par l'expérience, de la connaître le mieux possible. J'essaierai de me connaître, mon je suis, d'analyser et que toute ma philosophie aboutit à ce je suis pour le connaître le plus parfaitement possible. Et quand je connais le je suis, ma personne humaine, je me pose la question, existe-t-il un être premier ? Donc, vous voyez, là, je peux justifier ce départ, ce point de départ. Parce que si mon point de départ, c'est l'expérience interne, je laisse tomber toutes les expériences externes. Or, la philosophie doit connaître l'homme dans toutes ses dimensions. Et je ne peux pas nier que l'expérience externe est indispensable. Je connais celui qui est en face de moi. Je l'aime. Je lui donne la main. On travaille ensemble. Ça, c'est l'expérience externe. Vous voyez, si vous voulez, faites tout simplement l'expérience. Regardez le travail manuel uniquement du côté de l'expérience interne. Vous ne saurez jamais ce que c'est que le travail. travail implique un contact avec la matière. C'est bien évident. C'est pour ça que le marxiste qui veut connaître la matière considère que toute philosophie néo-platonicienne ou platonicienne, c'est une philosophie bourgeoise. Elle ne sait pas ce que c'est que le travail. Il faut donc reprendre une philosophie de l'expérience externe où le travail a sa place. C'est même la grande expérience de l'homme, le travail. C'est l'expérience typique de l'homme. Parce que dans le travail, mon corps est impliqué. La preuve, c'est quand j'ai mal au bras, ou mal aux pieds, ou mal à la tête, ou mal à l'estomac, mon travail s'en ressent. Quand je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Et mon travail s'en ressent. Il y a une maîtrise du corps qui est nécessaire pour le travail et pour l'expérience du travail. Vous voyez, c'est pour cela que une philosophie réaliste ne peut commencer que par l'expérience externe. Et dans l'expérience externe, le toucher. C'est la philosophie du toucher. Vous comprenez pourquoi ? Parce que l'expérience uniquement de la vue, c'est merveilleux l'expérience de la vue. C'est quelque chose d'inouï. C'est la lumière. C'est vaste. Alors, quand tu touches, c'est très limité. Je voudrais bien toucher là-bas l'horizon. Ça l'intéresse encore plus parce que elle est plus spirituelle, mais elle n'est pas première. Et donc, si je commence par ce qui est second en disant qu'il est premier, je fausse tout. Mais comme c'est vite fait de voir les limites du néoplatonisme, et pourtant, le néoplatonisme, c'est la philosophie qui a eu le plus grand succès dans l'Europe. L'expérience interne risque toujours de partir dans une sorte d'idéal, d'idéalisation. Ce n'est plus la philosophie du réel, c'est la philosophie du vécu. sais très bien. Mais c'est pas tout. Si je fais du vécu la réalité, c'est encore un ontologisme. Parce que mon vécu, il est ou intellectuel ou affectif. Mais ce n'est pas la réalité. C'est sûr, c'est pas la réalité. Je peux pas construire une philosophie sur mon vécu. Scolastique dite thomiste. Quand vous regardez les manuels thomistes, on ne parle jamais du jugement d'existence. Maritain a lui le mérite d'en parler, mais il en a parlé d'une façon à laquelle je crois on va aller plus loin, parce qu'il a identifié un peu le jugement d'existence et l'intuition. C'est capital. Cette parole de Merleau-Ponty que j'aime beaucoup. L'idéaliste n'interroge plus. Tandis que quand je suis dans la réalité, j'interroge toujours. Et dès que j'interroge, je reviens au réel. Alors, il y a une question, je ne veux pas la débattre avec vous, mais qui est extrêmement intéressante. Je l'inscris au tableau pour que vous y réfléchissiez. On la verra pas, parce que c'est beaucoup trop. Ça nous conduirait trop loin. Voir comment nos cinq expériences, celle de la vision, celle du toucher, et puis prenez tous les autres. Nos cinq expériences, cette expérience où domine le toucher. Je ferme les yeux, je touche. Exprès, je ferme les yeux pour mieux toucher. Parce que quelquefois, la vision, mon capital de vie étant limité, si je suis pris par la vision et par le toucher, mon toucher risque quelquefois de s'abattir. Je veux vraiment toucher. Eh bien, je vois qu'il y a cinq modalités d'expérience. Parce que nous avons les cinq sens. Et c'est curieux, on a cinq interrogations. Les grandes interrogations. On a cinq grandes interrogations. D'ordre de la recherche de la vérité. Alors, en quoi, je les écris, en quoi, vous connaissez cela, mais vous n'avez peut-être pas assez réfléchi, d'où viennent ces interrogations? Comment se fait-il que j'ai cinq interrogations? Parce qu'Aristote l'a dit, c'est pas philosophique ça. Disons, Aristote l'a dit, je veux voir si c'est vrai. Parce que tant que je répète Aristote, je suis pas philosophe. Je me mets à la suite d'Aristote. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Bon, au bout d'un certain temps, je deviendrai peut-être intelligent, ça s'ouvrira. En quoi? En quoi cette table? En quoi? Qu'est-ce? grande idée d'interrogation d'ordre pratique. D'ordre pratique, à quelle heure avez-vous travaillé? C'est intéressant point de vue pratique, point de vue de la vérité. La vérité n'est pas liée à l'heure. À l'heure de midi, il y a toujours une vérité qui se donne. Non, c'est la superstition, ça. C'est pas parce que c'est à l'heure de midi, mais à l'heure de midi, beaucoup de gens mangent, ne cherchent pas la vérité. Mais au point de vue pratique, c'est important, on mangera à telle heure, on se réunira à telle heure, au point de vue de l'obéissance. Mais au point de vue spéculatif, au point de vue de la connaissance, en vue de la vérité. La vérité cherchée pour elle-même, vous avez 5 interrogations. C'est curieux. Et il y a 5 expériences. Oh. Je pose la question, tout simplement. Ça m'intéresse parce que si vraiment il y a un lien, je commence à découvrir qu'au fond, ces cinq interrogations proviennent d'une intelligence qui mentit la vérité à travers ces expériences. Toute expérience m'enrichit. Et quand je suis fatigué, j'ai besoin de me promener. Et si je peux me promener dans un très beau pays, au bord de l'eau, de la mer, ou en montagne, ça repose. Et pourquoi ça repose? C'est parce que ça me permet de respirer intellectuellement. J'ai besoin de respirer. Point de vue biologique, j'ai besoin de respirer intellectuellement la recherche de la vérité, l'expérience. Et quand je suis toujours dans le même lieu, toujours le même lieu, ça s'use. C'est évident que ça s'use. Je vois toujours ça, ça m'agace. Quand vous faites le même trajet, au bout d'un certain temps, vous ne regardez plus rien. Et vous n'avez même pas remarqué que vous avez vu telle chose. Un étranger vient dire, ah tiens, c'est intéressant ça, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu. On ne voit pas, ça nous échappe complètement. Parce qu'on est fatigué. Et dès qu'on change, ça s'éveille. Notre intelligence s'éveille par nos sens. C'est par nos sens que ça s'éveille. Alors, il y a une recherche très intéressante. Je ne la fais pas avec vous. Vous laissez tout l'intérêt. Alors, je ne la fais pas avec vous, mais vous pouvez chercher le lien qui existe. Puisque cette expérience, c'est l'intelligence liée aux cinq sens. Et quand l'intelligence saisit quelque chose, et qu'elle ne saisit pas tout, elle interroge. Quand vous ne savez rien du tout, vous n'interrogez pas. Quand vous savez tout, vous n'interrogez pas. L'interrogation, c'est celui qui cherche. L'interrogation, c'est celui qui tend l'arc de l'intelligence et qui veut arriver à saisir quelque chose. Elle interroge. Vous voyez, le moment de l'interrogation avait été très perdu avec l'ontologisme et la scolastique. Descartes interroge très peu. C'est très curieux. Sartre n'interroge pas beaucoup. Aristote interroge toute sa vie. Oui, dans le néoplatonisme, on dit il y a un dialogue. Mais en réalité, c'est un dialogue factice. On sait tout. Mais on a un mannequin qui vous répond. Et on développe sa pensée. La dialectique, c'est le développement d'idées. C'est pas l'expérience, c'est le développement d'idées. J'exploite mon capital. Développement d'idées. Tandis que l'expérience, je rencontre quelque chose de nouveau que je n'avais pas encore vu. Et je me pose l'interrogation, qu'est-ce que c'est? Alors vous voyez qu'il y a un lien. Je mets simplement sur la détermination, selon la forme. Et quand je cherche en quoi, je cherche ce qu'il y a de premier, matériellement. En quoi cette table ? Donc, voyez, c'est là où on voit que tout de suite, la philosophie réaliste interroge à partir des sensations. Et que ces interrogations, à partir de la diversité même des expériences, l'intelligence a comme structure première les interrogations. Et par l'interrogation, elle découvre progressivement ce qu'il y a dans la réalité de première. C'est par l'interrogation qu'on va découvrir les principes propres de ce qui est. Et ces principes propres correspondent aux cinq causalités. Causalité selon la forme, causalité selon la matière, causalité selon la fin, causalité efficiente, causalité exemplaire, le modèle, qui prendra une force énorme dans les sciences. On cherche des modèles, on cherche des archétypes qui permettent de comprendre l'aspect matériel et surtout qui permet de pouvoir poser des théories. Donc voilà le point de départ de la philosophie réaliste. Et ça, je crois que c'est très important. C'est à partir de là qu'on aura d'abord le regard sur l'homme dans ses grandes expériences. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la grande expérience humaine, c'est le travail. Alors c'est très curieux, vous voyez, là, c'est aussi une chose qui est terrible d'une certaine manière. Quelles sont les philosophies du travail ? Il y a Hésiode. Tout à fait au début, Aristote, un peu, la poétique, mais c'est l'art, plus le travail appliqué dedans, mais c'est l'art. Il a fallu le marxisme pour élaborer une philosophie du travail, qui n'est pas une vraie philosophie du travail, puisque c'est une idéologie de la praxis. Et face au marxisme, on est obligé, si on veut répondre à Marx au point de vue philosophique, on est obligé de comprendre qu'est-ce que c'est que le travail. De reprendre une philosophie du travail sur les différentes modalités. Et vous voyez, la scolastique thomiste, qui se veut réaliste, n'a jamais élaboré une philosophie du travail. Il y a quelques thomistes qui ont voulu, face à Marx, essayer de comprendre ce qu'est une philosophie du travail. Mais c'est resté un peu comme une discussion ou critique ou sympathique à Marx. On a baptisé Marx. Vous voyez, la première partie de la philosophie dans ce cas-là de tout à fait radical, c'est la philosophie du travail. Et je ne dis pas ça à cause de Marx, je dis ça à cause de l'homme. Quelle est l'expérience la plus, j'allais dire, ordinaire, et en même temps, celle qui vous a marqué le plus dans la vie? C'est l'expérience du travail. Mais au point de départ, l'enfant a pleuré parce qu'on l'a obligé de travailler. Il avait pleuré un petit peu avant parce qu'il avait besoin du biberon. Mais après, c'est parce qu'il doit quitter le jeu et travailler. la philosophie du travail, je fais la philosophie du jeu. Forcément. Je ne dis pas tout ce qui n'est pas travail est jeu. Non, 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 non. Mais c'est différent. Et c'est intéressant de faire la philosophie du jeu. À partir du travail. Parce que c'est le travail qui est la grande expérience de l'homme. Le travail manuel. Et après, quelle est l'autre grande expérience? C'est l'amour d'amitié. Et la troisième expérience, c'est la coopération. C'est très curieux. Toute la philosophie réaliste repose sur ce triangle de base. Ces trois grandes expériences. Le travail, l'amour d'amitié, la coopération. Le travail. Et puis l'amour d'amitié. C'est l'anthropologie réaliste. L'homme travailleur qui modifie la matière, toute matière. Mais le poète modifie la matière du langage pour lui redonner sa nouveauté, pour lui redonner toute sa force. L'amour d'amitié, c'est l'expérience, une des expériences les plus profondes de l'homme. C'est bien une expérience extérieure et intérieure. Et la coopération me fait comprendre ce qu'est la communauté humaine. Dès qu'il n'y a plus de coopération, il n'y a plus de communauté. Vous voyez, ce triangle de base sur lequel tout, toujours, on revient, on revient. Parce que le travail, c'est un monde. Il faut commencer par le travail très simple, puis après on voit la complexité, et on voit comment l'instrument a été inventé pour le travail, et comment l'instrument a transformé le travail. Non seulement l'a modifié, mais l'a transformé. Et où est-ce qu'on va? Avec un travail qui est de plus en plus élaboré, de plus en plus utilisant une technique et des instruments très perfectionnés. L'amour d'amitié, normalement, ça ne change pas beaucoup. Je crois, quand Aristote aimait son épouse, il y avait une amitié. Il était le premier philosophe grec à dire qu'entre l'homme et la femme, il peut y avoir un amour d'amitié.